La rentrée littéraire s'étire. Previously, c'était la semaine dernière. Bonjour Romain Baxer, juste pour la rime.
Mais bonjour Anthony, bonjour à tous, à toutes.
Relativement pauvre, voire même chétive. Mais nous sommes là pour, enfin vous êtes surtout là, pour évoquer cette espèce de tsunami d'ouvrages qui arrive sur les étagères cette rentrée de septembre. Et on avait prévenu la semaine dernière, on allait se livrer avec vous à un exercice rarement vu. Rarement fait, qui est le speed, on va appeler ça le speed booking.
Voilà, tout à fait. La semaine dernière, on était sur donc l'amour, un des thèmes majeurs de cette rentrée littéraire. Donc, on s'est dit, peut-être un peu facilement, après le speed dating, le speed booking, comment parler de 16 ouvrages, c'est-à-dire un tiers d'Anthony, hein, un tiers d'Aurore et un tiers de moi-même.
La meilleure version de moi-même.
En un temps assez bref, hein, parce que bien sûr, je n'ai pas lu les romans d'Anthony et Aurore.
C'est un exercice.
Ils m'ont fait une petite note comme ça. Et donc voilà, en quelques phrases, essayer de
zapping immédiateté.
Voilà, donc
génération TikTok.
À vos stylos, à vos tablettes, à vos enregistreurs.
Les enregistreurs.
Non, ça n'existe plus. Hein. C'est terrible.
À vos magnétophones.
À vos magnétos.
MDM. Tout un monde.
Il est bien ton bouquin. Casse pas des briques. Mais le tien. Je comprends rien.
J'ai lu un livre une fois, ça m'a rien fait.
Je vais peut-être dire une bêtise, La Peste.
La Peste, ah non. Ah oui, si, c'est Zola.
C'est Camus.
Camus, ah bon.
Et donc on disait quoi? Cuticule.
Ça veut dire quoi? C'est un livre sur le rapport entre les femmes et les animaux.
Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. C'est un livre qui parle du rapport qui peut exister entre un animal d'une part et une femme d'autre part.
Vous avez vraiment une écriture. Pourquoi vivez-vous comme un clochard?
Mais je suis un clochard. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous voulez que je chante les souffrances de la grande bourgeoisie? Connerie.
Ça vous surprendra sans doute, mais elle souffre aussi.
Oh. Doucement, petite. Personne ne souffre autant que les pauvres.
Dites-moi, a été annoncé, je crois que c'était la semaine dernière, la première liste pour le prix Goncourt, et vous êtes meurtri, vous êtes en colère, votre cœur saigne et vos sens sont au rebond.
Non, disons que il est toujours facile de s'indigner sur les puissants, n'est-ce pas? Voilà, c'est assez facile.
Je vais en vouloir à Stéphane Hessel parce que tout le monde l'a suivi au pied levé. Hein. C'est-à-dire qu'on s'indigne pour tout.
On s'indigne pour tout.
Il y a des capres dans ma pizza, j'en voulais pas. Les racistes, il y en a trop. Oui, il y en a pas assez. Enfin, il y en a des. Voilà, et on s'indigne de tout.
Voilà, donc histoire de déminer juste avant mon petit
déminer.
Coup de gueule. Je démine avant ce petit.
C'est une mine personnelle.
Coup de gueule, oui. Bah, si vous voulez, donc la première session du Goncourt qui était annoncée à tout début septembre, aux alentours du mardi 5 septembre, 16 titres en première sélection. Vous savez, après, il y aura deux autres sélections, il n'y en aura plus que quatre à la fin. Une espèce de savant suspense, orchestré par l'Académie du prix Goncourt. Et donc là, j'étais un peu surpris quand même de voir dans les 16 titres, il y en a tout simplement un tiers de Gallimard. Voilà, de la collection blanche de Gallimard.
On va être ravis.
La collection, j'adore Gallimard, bien évidemment.
J'adore Gallimard.
Ils produisent des textes excellents que j'ai conseillés et que je continue de conseiller.
Mais
c'est juste que là, l'hégémonie, comme on dit.
Ronde de Gallimard.
Voilà,
tu les autres.
Donc c'est vrai que j'étais un peu surpris de voir un tiers, vraiment, sur les 16 titres de cette vénérable maison. Voilà, bon, c'est juste pour attirer, en fait, un peu l'attention de nos auditeurs et auditrices. Sur ce phénomène qui est en fait purement éditorial. C'est pas forcément les textes qui sont récompensés, c'est aussi des maisons d'édition. Ça, c'est bon de le savoir.
Oui, il y a d'autres maisons, il y en a des.
Et justement.
Des petites, des moyennes, des grandes.
Le contre-pied, c'est que dans ces 16 titres, il y a un titre dont je vais parler en speed booking. Il y a le Kevin Lambert, Que notre joie demeure, au Nouvel Attila. Voilà, là, c'est une petite maison d'édition qui a tout de même été rachetée.
Qui a ses entrées dans nos rendez-vous.
Voilà, Nouvel Attila a été racheté par le Seuil. Voilà, donc c'est maintenant une marque, comme on dit, du Seuil.
Oui, ça, c'est pour tout.
Tout
s'englobe.
Voilà, ce qui n'empêche que l'éditeur d'origine du Nouvel Attila tient toujours les rênes de sa maison et donc continue de publier Kevin Lambert, qui avait été donc repéré par Anthony il y a quelques années pour son premier roman. Voilà, son second roman, c'était Querelle, aux éditions du Nouvel Attila. Kevin Lambert est un auteur québécois.
Quand même.
C'est un francophone.
On a un accent quand on lit.
Ça me semblait évident. Mais bon, voilà, c'est, voilà, ça c'est la beauté en fait du monde francophone. Et c'est tout simplement pour dire que la sélection du prix Goncourt, voilà, même si un tiers de Gallimard, il y a aussi des petites pépites à repérer comme ça, et on se réjouit que Kevin Lambert fasse partie de cette sélection. On verra s'il ira jusqu'au bout, espérons-le.
Ça vous a fait du bien, quoi, ça, de jeter votre fiel?
Oh, j'ai aussi louangé avec Kevin Lambert.
Bon alors.
Et justement, bah, Kevin alors, Lambert, commençons.
Comment on fait le truc? Il y en a combien de bouquins?
Il y en a 16.
Il y en a 16.
Je me dis, autant que la sélection du prix Goncourt, voilà, nous avons nos 16 livres.
Hein. Et vous voulez faire ça en combien de temps?
Écoutez, j'ai juste une phrase ou deux par livre.
On va démarrer à ce top.
Kevin Lambert, aux éditions de Nouvelle Attila, c'est le Que notre joie demeure. Il s'agit d'un grand architecte de renommée mondiale qui est accusé de gentrification, hein, vous savez, c'est-à-dire de bourgeoisification, si on peut dire, d'un quartier populaire de Montréal. C'est à la fois la lutte des classes et la critique de la modernité par Kevin Lambert. Donc ensuite, il y a Conquest de Nina Allan aux éditions Tristram. Là, il s'agit tout simplement d'un informaticien programmateur, Franck, qui est en pleine théorie du complot sur fond de Jean-Sébastien Bach. Ça peut peut-être surprendre.
Camoulox.
La contrée obscure de David Vann aux éditions Gallmeister. Là, c'est un récit croisé de la conquête de la Floride en 1539 par donc le conquistador De Soto, hein, c'est la première incursion. Et en parallèle de ce récit, il y a un conte Cherokee. Voilà, vous avez deux récits comme ça chez David Vann. La contrée obscure, c'est un livre magnifique qui parle de cette colonisation par les conquistadors. Samsara de Patrick Deville aux éditions du Seuil. Voilà, là c'est la grande roue des vies successives à travers la réincarnation. C'est ça la définition de Samsara. Nous avons également ici un récit croisé entre l'histoire de Gandhi, pacifiste, et Pandurang Kankodje, militant indépendantiste aussi indien. Voilà, le narrateur parcourt le pays, l'Inde, pendant un événement de Covid, et il rencontre des historiens, des géographes, des écrivains, des étudiants qui lui racontent l'histoire de l'Inde contemporaine, quand même le pays le plus peuplé au monde. Les Alchimies de Sarah Chiche aux éditions du Seuil également. Là, c'est un médecin légiste, hein, Camille Cambon, qui en 2022 reçoit un mail où il est question du peintre Goya et de son crâne volé après son inhumation. Sachez que Goya est décédé à Bordeaux. C'est une grande fresque, hein, sur l'origine du génie et les pouvoirs obscurs et merveilleux de l'art. Là, je l'ai pas mal.
Il était bien celui-là. Bientôt, il y a de la peinture, il y a du régionalisme et voilà. Des gens décédés.
L'amour de François Bégaudeau, mais on en a parlé la semaine dernière, donc c'est juste.
On va mettre une petite astérix pour le.
Une pastille.
Voir résumé des épisodes précédents.
L'enfant dans le taxi de Sylvain Prudhomme aux éditions de Minuit. Je rappelle qu'il a eu le prix féminin en 2019, cet auteur. J'ai beaucoup conseillé à la librairie Caractère Par les routes. Hein. J'en ai vendu, je crois, une palanquée, une centaine. Donc certains de nos lecteurs devraient retrouver ce titre, Sylvain Prudhomme. Ici, ben, c'est la mort de Luciano Malucci, hein, qui est le grand-père du narrateur et qui entraîne la révélation en fait, de la naissance d'un enfant caché avec une Allemande pendant la guerre. Une Allemande, une femme de toute beauté à laquelle on ne peut résister. Encore une fois, l'amour.
Une authentique Fräulein.
Voilà. Coup de cœur d'Anthony également. Et vous passerez comme des vents fous. Là, c'est Clara Arnaud aux éditions Actes Sud. Nous devrions d'ailleurs recevoir hein, cette autrice. L'attaque d'un ours dans une vallée des Pyrénées. Et en parallèle, un siècle plus tôt, nous avons le récit d'un montreur d'ours de cette vallée qui est parti faire fortune à New York. Voilà, grand roman sur l'écologie, bien sûr, et la modernité. Comme c'est un dialogue entre une écologue et une éthologue, écologue et un éleveur.
On est à la moitié là.
Oui.
Je fais une petite pause avec 5 secondes justement de Mistral ou de Sirocco.
Eden de Ava Ólafsdóttir aux éditions Zulma. Cette autrice islandaise est peut-être connue de nos auditeurs et auditrices pour Rosa Candida, un livre dont on avait beaucoup parlé, qui a d'énormes ventes dans cette maison d'édition. Ici, avec ce dernier roman, elle revient avec une héroïne, vous voyez, islandaise, qui a fait le tour du monde pour un colloque universitaire et elle se dit, maintenant il faut que je compense mon bilan carbone, je vais planter, elle a calculé 5600 arbres pour compenser ce bilan carbone.
Donc, mais pas en Islande, à travers le monde.
Donc en Islande.
Ah, voilà. En Islande même.
Oui, elle va essayer.
Au milieu des geysers, des fjords.
pousse pas, là où ça ne pousse pas du tout, oui. Elle se met en tête de planter une forêt de bouleaux, et donc ces 5600 arbres donc vont essayer de naître dans cet Éden qu'elle vient d'acheter.
Entre la glace et le feu.
Voilà, exactement. Hors sol de Philippe Young aux éditions Mémoires d'Encrier, des éditeurs québécois qu'on aime beaucoup, qu'on recevra d'ailleurs à la librairie Caractère fin septembre. Là, il s'agit d'un agronome portugais, Alvaro, qui se cherche, hein, qui cherche son identité dans des projets.
J'ai un peu jet-lagué là, avec dans... tous ces pays.
Ah oui, oui, dans des projets. Ben... hydroponique, hein, c'est un agronome qui cherche à monter donc des fermes hydroponiques, hein, vous savez, donc hors sol, hein, dont le titre voilà, le reprend, au Québec, puis en Islande. Je souligne que l'auteur Philippe Young raconte cette quête, hein, d'un homme, hein, pour trouver sa place dans le monde, et cet auteur est né en France, de parents coréens, et enseigne maintenant la littérature à l'Université de Montréal. Voilà.
Je ne sais plus où j'habite.
Voilà, voilà. Là, on est bien perdu, mais en tout cas, hors sol de Philippe Young, un grand, grand livre. De ma collègue Aurore, les coups de cœur qui arrivent ici, je souhaite seulement que tu fasses quelque chose de toi. Ça, c'est un long titre de Holly.
On dirait un film, le titre d'un film français.
C'est vrai que...
Je vais bien, ne t'en fais pas.
Oui, oui, c'est vrai que le titre est... Bon, il faudrait voir en l'édition originale. Hein,
je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part.
Voilà. Donc, je souhaite seulement que tu fasses quelque chose de toi, de Holly McNish aux éditions du Castor Astral. Hein, c'est une autrice écossaise, donc... peut-être aussi à lire dans le texte pour les bilingues de nos auditeurs et auditrices. Donc ici, attention, c'est vraiment un livre viral. Je vais juste lire là, le petit bandeau. C'est drôle, pertinent et réconcilie chez moi, donc chez Aurore, la fille, la mère, l'amante et la poétesse, du pollen à semer aux quatre vents. Tasmania, de Paolo Giordano, aux éditions Le Bruit du Monde. C'est un roman traduit de l'italien. Un roman, disons, climatique et contemporain, puisqu'elle se passe en 2015, juste après les terribles événements, les attentats de Paris et du Bataclan. En même temps, il y a un sommet climatique, voilà, une espèce de COP où chacun doit trouver finalement sa Tasmanie, son espace où écrire son avenir.
Là, je trouve rien à dire pour sourire.
Shy, de Max Porter, aux éditions du Sous-Sol. Tout à fait, le titre n'a pas été traduit, vous voyez, comme Tasmania non plus, Eden non plus. Shy, donc de Max Porter, aux éditions du Sous-Sol. Là, c'est un ado violent et décrocheur scolaire. On est en 1955, en Angleterre, qui va donc atterrir dans un manoir, résidence pour mineurs délinquants, tenu par de jeunes travailleurs sociaux. Je cite encore le coup de cœur. « Quelle plus intense beauté que celle issue de l'horrible, lumineuse écriture de Max Porter. » P.J. Harvey a beaucoup aimé ce livre.
D'accord. Il faut lui faire lire le livre dans lequel il est pour qu'il file droit. Oui, je sais, ça ne tient pas.
« Sauvage » de Julia Kerninon aux éditions de l'Iconoclaste. Eh bien là, il ne faut juste lire le bandeau de ce livre.
C'est tout.
Écrit par Nancy Houston. C'est élégant, étonnant, ça se dévore.
Faire un classement des meilleurs bandeaux.
« Le chien des étoiles » de Dimitri Rouchon-Bory aux éditions du Tripode. Il sera d'ailleurs là le 30 novembre à la librairie Caractère. C'est le quatrième
roman. Ça, c'est le meilleur titre.
Voilà, c'est le quatrième roman de cet auteur. On peut bien sûr rappeler l'intertexte avec Le Vagabond des Étoiles, hein, de Jack London, hein, ce conte farouchement.
Vous ne savez pas faire short. Vous ne savez pas.
Non,
vous,
c'est vrai.
Vous feriez un piètre
c'est
Twitter.
Vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Non, pardon, dites plus Twitter. Vous feriez un piètre Xer.
Donc, Le Chien des Étoiles de Dimitri Rouchon-Bory, là, c'est un jeune homme, Gio, qui part sur les routes avec Dolores et Papillon pour fuir la violence de sa communauté de voyageurs. Je précise que Gio a pris un tournevis dans la tête. C'est un poète très malade, mais qui arrive avec un récit...
Je l'ai pas, là, le tournevis dans la tête.
Brutal et douceur. Voilà, c'est un récit à la fois empreint de brutalité et de douceur, mais on approche de l'essence de la poésie.
C'est un speedbooking qui mérite une pause avec, avec une des chansons les plus courtes de l'histoire de la musique.
Non, 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 non. Nom, 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 rien de rien. Non, non, je ne regrette de... je ne regrette rien.
Alors, j'ai pas regardé le chrono, ça avait l'air bien. Vous allez m'envoyer la liste des auteurs et des bouquins, et comme ça on relaie ça sur nos réseaux. Et les gens s'y retrouveront et viendront vous voir en disant ça avait l'air pas mal ce bouquin dont vous avez parlé.
Mais oui, tout à fait. La liste doit être disponible, vous voyez ça, parce que là vous avez une pléthore d'éditeurs, plus ou moins connus d'ailleurs, et que vous allez peut-être pouvoir découvrir justement à cette occasion, d'auteurs également et d'autrices.
Bon, moi je vais tout réécouter, puis j'essaie de prendre des notes. Le chien des étoiles, moi ça me plaît bien.
Ah ouais, c'est vraiment une...
Et le bouquin islandais, là aussi.
Une balade.
Et celui avec en Écosse, il est pas mal. Il faut vraiment que je réécoute. Merci Romain Maxer.
Avec plaisir, merci Anthony, à bientôt.
Vous avez tout condensé. Vous êtes un grand condenseur.
Condensons, là, les puces.
Je suis chier.
Ah ben après Bégodeau, la semaine dernière, j'essaye de tout condenser, oui.
Même l'amour.
Oh là là, c'est dur.
L'amour.
C'est dur, hein, il vaut mieux.
Ouais, si, on va rester là-dessus, hein. Les gens pardonnent.